Shalom Rav Cherki.
Shalom tout le monde.
Merci beaucoup de vous prêter une seconde fois à ce jeu de questions-réponses. Alors, j'ai reçu plusieurs questions d'anciens élèves. Je vais commencer avec ces questions-là et ensuite on aura les questions du public. Alors, première question. Si vous aviez été chef du gouvernement israélien le 7 octobre, comment est-ce que vous auriez réagi? Quelles décisions est-ce que vous auriez prises?
J'aurais pris exactement les mêmes décisions que celles qu'a pris Netanyahou. Il a demandé à l'armée d'avoir une réaction violente et immédiate et très rapide. Il n'a pas été suivi. Mais c'est ça qu'il aurait dû faire, évidemment. Je ne suis pas encore au point d'adopter les propositions de Eliyahu Yossian, le spécialiste des affaires iraniennes, qui dit qu'en fait la réaction immédiate aurait été d'amener un massacre massif de nos ennemis. Il dit que ça aurait mis les choses en place. Israël aurait été condamné dans le monde entier, mais d'autre part, on aurait compris qu'avec les Juifs, on ne fait pas de bêtises.
Mmh. Donc pas à ce niveau-là. Mais là, la décision était bonne, mais l'application n'a pas été faite.
Évidemment. En fait, on peut se rendre compte qu'il y a eu un désarroi dans l'armée. L'armée était entièrement désemparée. La raison la plus probable, si on fait exclusion de quelque chose de volontairement fait, un sabotage planifié, ce qui serait très grave. Mais simplement, on peut dire que l'armée a été, disons, enfermée dans des conceptions fondamentales, qui est que, par exemple, dans les bases de l'aviation, par exemple, la première réaction a été « Ah, puisque nous sommes attaqués, il faut rentrer dans les abris.
Mmh. »
Un ordre d'attaquer ou de donner une réponse n'a pas été donné, par exemple. D'accord, ce sont des habitudes prises par des personnes qui sont incorporées dans un système. Et donc, à partir du moment où il y a quelque chose qui n'est pas dans le plan, qui est une surprise, on ne s'y attendait pas, puisqu'il était persuadé que jamais le Hamas n'oserait attaquer, alors on ne sait pas comment réagir.
J'ai compris. Mais est-ce qu'il y a une valeur selon la Torah à la vengeance?
Est-ce qu'il y a une valeur selon la Torah à la vengeance? Il y a une valeur selon la Torah à la justice.
Mmh.
Une partie de la justice, c'est la vengeance. C'est-à-dire, la vengeance ne va pas dans le sens d'un sentiment exacerbé, de rage qui vous monte à la salive, etc. Il s'agit simplement de comprendre que la vengeance fait partie des nécessités de l'établissement de la justice dans le monde.
Mmh. Ok. Deuxième question. Question suivante.
Troisième.
Question suivante. Il y a un désaccord profond aujourd'hui dans la société israélienne concernant l'engagement des orthodoxes à l'armée. D'après vous, comment est-ce que ça va se finir, cette histoire?
Il n'y a pas de désaccord profond.
Mm-hmm.
Ceux qui exigent l'enrôlement des Haredim à l'armée ne veulent pas des Haredim à l'armée. Ceux qui sont d'accord de les dispenser ne veulent pas vraiment les dispenser. Donc, en fait, il y a un accord général qui est que on voudrait bien que les Haredim aillent à l'armée, mais on ne va pas les enrôler. C'est à peu près ça, l'accord général. Le débat est entièrement faussé et biaisé pour des raisons politiques. Il est utilisé dans le cadre de l'affrontement politique entre la gauche et la droite. Il n'a rien à voir avec les problèmes de fond.
Okay.
Maintenant, si vous me demandez qu'est-ce qui va se passer à longue échéance, étant donné que la démographie est favorable à l'emprise des Haredim sur une grande partie des rênes de l'État, les Haredim, un jour ou l'autre, devront prendre leurs responsabilités. Étant donné que quand ils seront au pouvoir, ils devront décider comment ils s'occupent de la sécurité de l'État, de l'économie de l'État et de toutes les branches de la vie sociale. Et donc, par la force des choses, ils vont d'abord devenir sionistes de facto, et de plus, ils vont devoir adopter finalement l'idéologie de la pensée du Rav Kook. C'est ce qui va se passer.
Parfait. Plus ou moins long terme.
Vous savez, comme disait le Rav Shanzal, il est plus facile d'être historien que prophète.
Est-ce que d'après vous, les rabbins doivent s'occuper de politique?
Les rabbins ont le devoir fondamental, selon la Torah, de s'occuper de politique. Étant donné que la Torah est la constitution de l'État hébreu sur sa terre.
Mmh.
Donc si les rabbins ne s'occupent pas de politique, ils trahissent leur rôle. Alors évidemment, pendant le temps de l'exil, les rabbins ne pouvaient s'occuper que d'affaires individuelles ou communautaires, parce que c'était ça qu'il y avait sur le terrain. Mais ils n'ont jamais oublié, je l'espère, qu'en fait nous sommes une nation en exil et que quand cette nation est restaurée dans son indépendance, elle a des responsabilités et donc il doit s'occuper de politique. Est-ce que ça veut dire qu'il doit faire de la politique? La réponse est non. La politique appartient dans la pratique aux politiciens. Or, les aptitudes nécessaires pour s'occuper de politiques pratiques ne sont pas les mêmes que celles qui sont nécessaires pour être rabbin. Les rabbins doivent s'occuper de la politique avec un grand P, c'est-à-dire la politique en tant que principe. Ils doivent avoir une influence sur le monde politique. Ils ne font pas eux-mêmes le travail politicien, même si ça peut arriver, tel ou tel rabbin est, comme par hasard, député à
Politicien.
la Knesset.
J'ai entendu des rabbins qui disaient c'est une mitzvah de voter un tel ou le rab a tranché qu'il fallait voter un tel. Qu'est-ce que vous en pensez?
On a le droit de soutenir qui on veut. Maintenant, si on dit que c'est la halakha, alors là, il faut amener des preuves.
Maintenant qu'on a une perspective de 4-5 ans sur la période du corona, est-ce que vous avez des compréhensions par rapport à cette période? Pourquoi Dieu nous a envoyé ça? Est-ce qu'on a bien réagi?
Disons que le corona a été un des éléments qui ont déstabilisé la société humaine, l'humanité tout entière. Or, ce phénomène de déstabilisation a un sens, parce que quand il y a déstabilisation, il y a potentialité de changement. Alors, quelle que soit votre position personnelle par rapport aux vaccins ou pas les vaccins, en fait, c'est tout à fait secondaire. Parce que même si on dit que les vaccins ont tué beaucoup de monde, ils ont sauvé encore plus de monde. Mais maintenant, on pourra rentrer dans un débat, il y aura des théories conspiratrices et tant d'autres. En fait, tout cela n'a absolument aucun sens. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a un ébranlement de la conscience humaine, une transformation de l'identité humaine qui permet justement d'aboutir à des résultats peut-être inattendus.
Super. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle dans
Oui,
votre
ça m'arrive d'utiliser, et je suis assez minable dans l'utilisation des technologies d'ordinateur, mais bon, parfois c'est utile. D'ailleurs, c'est comme ça que vous pouvez découvrir que je suis un personnage réel et non pas une invention de l'intelligence artificielle.
Et quand vous l'utilisez comment, de quelle manière?
Je pose une question, je trouve des réponses, c'est tout bête.
D'accord. Si jamais l'intelligence artificielle fait un chidouche de Torah, par exemple, elle combine toutes sortes de connaissances, elle fait un chidouche de Torah, qu'est-ce que
Oui,
ça vaut?
ça a été étudié. Si vous voulez, pour l'instant, l'état des recherches à ce propos même, c'est que effectivement, l'intelligence artificielle est incapable de faire un vrai chidouche de Torah. Elle peut ramener des données. Dans ce point de vue-là, c'est comme un dictionnaire. Si vous avez le dictionnaire, n'est pas un possek halakha, mais c'est intéressant. Ça vous donne plus d'informations que vous en auriez avec une simple bibliothèque. Mais ça va pas plus loin que ça pour l'instant.
D'accord. Est-ce que vous suivez un petit peu la politique française?
Oui, ça m'arrive évidemment. Je sais que un président français a essayé de baiser la main de la femme d'un président syrien, ce qui prouve d'ailleurs que l'Occident dans son ensemble n'a aucune compréhension de ce que c'est que le monde oriental. Évidemment, la politique française me préoccupe, entre autres à cause justement de l'équilibre des puissances, qui concerne également Israël. Également, en raison du destin de la communauté juive de France qui se trouve entre l'enclume et le marteau, et quels que soient les résultats des élections à venir, il y a lieu d'être inquiet pour des phénomènes de violence qui peuvent éventuellement attaquer la communauté juive. Il faut faire très attention à ça.
D'accord. Alors vous n'êtes pas prophète, mais entre le camp plutôt extrême droite, d'ailleurs porté par un juif, Éric Zemmour, et le camp plutôt islamo-gauchiste, vous pensez que ça va vers où?
Ben disons que ça va aller mal. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Vous connaissez cet argument qu'on entend parfois dans le discours officiel des Juifs en France? Oui, l'Aliyah, c'est très bien, ça ne doit pas être une fuite. Je me demande pourquoi pas. C'est-à-dire que l'Aliyah va être très souvent motivée comme par des événements dramatiques, par la fuite, et ça a eu des résultats finalement positifs. C'est ça qui a établi l'État d'Israël.
Très bien. Je change un petit peu de registre. Il y a un élève qui nous a dit comme ça, il a dit, au Machon Meir, on a l'habitude de dire la phrase du Rav Zvi Yehuda, chilouké déot et pas chilouké les bavot. On peut ne pas être d'accord sur les opinions, mais nos cœurs sont toujours en harmonie, mais si l'opinion de quelqu'un va avoir une influence sur moi, et son exemple à lui, c'est qu'il est parti en Milouim pendant des mois, et qu'il a rencontré un autre juif qui a dit, moi, je suis un déserteur fier de l'être, et que donc, bah, d'accord, c'est ton opinion de ne pas aller à l'armée, mais ça joue sur ma vie réelle. À cause de toi, je fais plus de
Bah,
services de
disons
réserve
que
que comment garder la haine,
c'est-à-dire que
l'amour.
l'enjeu de la fraternité, c'est justement quand ça présente des difficultés. C'est-à-dire aimer quelqu'un parce qu'il ne m'a rien fait, ça ne veut rien dire. C'est quand justement il y a ce problème de la fraternité qui est remis en question que c'est important. Il y a d'ailleurs un discours qu'on entend surtout du côté d'extrême gauche en Israël, c'est nous ne sommes pas frères. Mais une phrase de ce genre, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle ne peut être prononcée que par un frère. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça revient à ce que dit Rashi dans le livre de Bereshit à propos des frères de Yosef, qui, bon, la Torah dit « Velo yartou d'abord le shalom », vous ne pouvez pas lui parler de paix. Et Rashi dit quand on entend leur critique, on entend également leur louange. Parce que ils n'ont pas menti. C'est-à-dire, je te déteste et je te le dis. Je ne suis pas d'accord et je te le dis. Alors, si on dit comme ça, il y a une chance que finalement on s'aime et qu'on se réconcilie. C'est d'ailleurs ce que nous enseigne l'histoire du livre de Béréchit.
Voilà. Et Rafcherki, comment guérir d'un chagrin d'amour?
Il faut toujours, dans tout chagrin, dans toute souffrance, avoir conscience de l'importance de l'avenir. C'est-à-dire se lamenter sur un effet du passé n'a absolument aucun sens. Et donc, on peut dire que sa chagrin d'amour est une expérience douloureuse, mais comme toute expérience douloureuse, elle porte en elle le potentiel du changement. Plutôt que de s'enferrer dans ce qu'on appelle une miséricorde sur soi-même, se prendre en pitié, ça n'a absolument aucun sens.
Très bien. Et on est dans la période des 3 semaines. Comment est-ce que vous définiriez le concept de haine gratuite? Qu'est-ce que ça veut dire, la haine gratuite?
La haine gratuite, en fait, je vais vous dire un enseignement que j'ai entendu du Rav Yehuda Léon Naouri, qui a dit, il a fait une analyse des textes de la Guémara qui parle de la haine gratuite, et est arrivé à une conclusion très intéressante, c'est que toute haine est gratuite. Et en fait, la haine gratuite a pour origine la division des opinions. Le Rav Kook, de manière assez surprenante, vous savez que le Rav Kook aimait tout le monde. Il aime tellement tout le monde qu'il aime même la haine gratuite. Il lui donne un sens. Il dit que ça permet à chaque camp, à chaque secteur de la société, de ne pas comprendre l'autre secteur. Et cette incompréhension est très importante parce qu'elle permet de se consacrer à la valeur pour laquelle on est plus doué. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut encourager la haine gratuite à l'éternité, mais ça donne un sens. Et à partir du moment où on comprend le sens des divisions des cœurs, c'est là qu'on peut arriver également à une synthèse des cœurs.
Donc, comment est-ce qu'on encourage l'amour gratuit, du coup?
Eh bien, il faut faire la différence entre la pratique et la théorie. C'est-à-dire, si je suis capable d'aimer quelqu'un qui fait du mal, alors ça ne veut pas dire que je dois accepter qu'il fasse ce mal. Je dois réagir. Je dois réagir. Mais le fait que je dois réagir, c'est mon devoir moral, n'entame absolument en rien le fait que j'ai l'amour de son être. Or, son être est inaltérable.
Très bien.
Ce qu'on appelle la ségoula.
A-t-on le droit de faire un cours de Torah mixte, c'est-à-dire des garçons et des filles dans la même pièce, sans méchitsa?
L'étude demande effectivement une séparation, mais ne demande pas de méchitsa. Si vous voulez la preuve, c'est très simple. L'idée de la méchitsa est née à l'époque du deuxième temple, dans ce qu'on appelle la Simchat Betashova, les réjouissances de Sukkot. Quand il y a abondance de joie, donc de sentiments, c'est alors que le Yetzer Hara risque de s'emparer de nous, et donc la Gemara nous dit qu'on a fait une méritsa. Par contre, il y a une autre cérémonie qui avait lieu dans le temple, c'était la lecture de la Torah par le roi, et tout le peuple venait, il n'y avait pas de méritsa. C'est-à-dire, quand il s'agit de l'étude, on suppose que le Yetzer Hara est amoindri, disparaît, non, mais qu'il est amoindri, et donc on va tenir compte de ce fait-là et ne pas faire de méritsa. D'ailleurs, il y a à ce propos un usage intéressant chez nos frères séfarades, c'est que lorsque on amène le rouleau de la Torah pour le ramener dans l'arche, on tire le rideau qui sépare les hommes des femmes pour que les femmes puissent embrasser le Sefer Torah. C'est un relan de cela. Je vais raconter une petite anecdote. J'ai eu la chance de connaître le rabbin Meir Zini. Ceux qui l'ont connu ont connu la grandeur du personnage. Dans sa synagogue, un jour, le Sefer Torah passait et une femme donc lance sa main pour embrasser le Sefer et un Baal Teshuva qui venait tout frais, tout émoulu, commence à faire un scandale, c'est pas possible, etc. Puis il se rappelle qu'il y a quand même un rabbin dans la synagogue. Il dit, Kvod Harav, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je faisais la prière.
Il y a plusieurs mouvements différents dans le monde sioniste religieux. Par exemple, je sais pas, la yeshiva de Har HaMor, la yeshiva du Gush Etzion de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les différences entre ces mouvements?
Bon, alors vous parlez d'un fait social, tout d'abord. Mais là, si vous voulez, on peut parler d'abord d'un fait, pourrait-on dire, idéologique, fondamental. La différence qu'il y a entre la pensée du Rav Kook et la pensée du Rav Soloveitchik, qui sont les maîtres à penser de ces deux mouvements, la pensée du Rav Kook donne une signification positive, et même de sainteté, à l'État. C'est-à-dire la dimension politique dans la Géoula est très importante. Par contre, on peut dire que dans la pensée du Rav Soloveitchik, le judaïsme finalement ressemble un peu à ce qu'en pensent certains Haredim, que c'est une religion. Et la dimension politique est mise à l'écart. Et cela a des conséquences donc au niveau, par exemple, de la mise en valeur de l'individualité plutôt que de la collectivité. Après, ce que vous dites au niveau des yeshivot de facto, comme elles sont dans le terrain, alors là, il y a ici un mélange de données sociologiques qui n'ont rien à voir avec l'idéologie fondamentale.
D'accord. Y a-t-il une question à laquelle vous ne savez pas répondre?
Oui, bien sûr.
Laquelle?
Par exemple, quand est-ce que sera reconstruit le temple de Jérusalem? Parce que j'ai lancé une date une fois, mais enfin, on verra bien.
Est-ce que la philosophie des Kharedjim, elle est dans le faux ou il y a quand même des bonnes choses à en tirer?
C'est une question qui est valable pour toute philosophie et toute pensée. Dans toute pensée, il y a toujours un élément de vérité, pour une autre simple, parce que s'il n'y avait pas d'élément de vérité, l'idéologie s'effondrerait. Maintenant, est-ce que les Haredim ont raison au niveau de la, disons, de la halakha? Certainement, certainement pas. Vous connaissez ce passage dans la Guémara, dans Eruvin, qui dit qu'une voix du ciel s'est fait entendre pour dire que Elou ve'elou divrei Elohim Chaim, les paroles de Beth Shammai et les paroles de Beth Hillel sont toutes les deux des paroles du Dieu vivant. Mais la halakha est comme Beth Hillel. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, étant donné que les paroles de la maison de Shammai sont des paroles du Dieu vivant, donc je peux également les appliquer. Là, il y a une erreur, une halakha. Et à ce propos, il faut faire la différence entre deux conceptions différentes qu'on trouve dans le monde haredi. Il y a l'opinion la plus courante aujourd'hui en Israël, c'est qu'en fait, l'État d'Israël n'a pas d'importance. C'est-à-dire, il est utile. Il est utile d'avoir un État, il est utile d'avoir une protection. Mais ce qui est important, c'est l'étude de la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire, c'est réduire le judaïsme à ce qu'il a toujours été pendant le temps de l'exil, à une religion. Par contre, il y a une autre opinion, celle du Rabbi de Satmar, qui est plus diffusée en dehors d'Israël, essentiellement en Amérique, et qui affirme que l'État d'Israël est interdit. Il est interdit de fonder un État parce que, et là c'est très intéressant, parce qu'on n'a pas le droit d'amener la Géoula avant que ce soit le temps. Ce qui veut dire que du point de vue du Rabbi de Satmar, la Géoula, la délivrance d'Israël, est effectivement un événement politique. Et de ce point de vue-là, le Rabbi de Satmar est très proche de la pensée du Rav Kook, même s'il dit le contraire. C'est-à-dire, quand on dit le contraire dans la même catégorie, c'est qu'on pense de la même manière. Et ça, si vous voulez, le fondement théorique de la pensée du Rabbi de Satmar, c'est que toute souveraineté est une remise en question de la souveraineté du souverain du monde. Et de ce point de vue-là, il a raison. Pourquoi est-ce qu'il a tort? Il a tort tout simplement parce que c'est une mitzvah de fonder l'État d'Israël. Si ce n'était pas une mitzvah, il aurait raison.
Okay, mais ça veut dire que moi je veux plus savoir donc c'est-à-dire que ce qu'ils pensent les Kharedjim, ça veut dire c'est pas vraiment fondé quoi, c'est pas
Disons que la halakha n'est pas comme les Haredim.
okay.
Effectivement, ceux qui ont raison du point de vue de la halakha finale, c'est effectivement les sionistes, puisqu'ils sont fidèles à la Torah.
Okay. J'ai une autre question.
Ça veut dire chez
Ce que tu veux.
Donc, autre question.
Je suis au-dessus de tout ça.
Moi, pour revenir sur la France, moi, c'est comment vous voyez l'avenir des Juifs en France, d'après le Rav Kook, d'après ce qui est marqué, puisqu'on sait qu'il y a Rav Kook, il a marqué tout sur l'avenir un peu.
Bon, disons que on peut décider à un moment ou à un autre de l'histoire d'être en dehors de l'histoire. Il faut savoir où est-ce que l'histoire se joue. Or, l'histoire du peuple juif, actuellement, c'est le temps du retour. Donc, quand on se met en dehors de ce récit-là, en fait, c'est de l'anachronisme. On appartient à une histoire révolue. Appartenir à une histoire révolue ne peut qu'entraîner des déviations. Et ces déviations sont dangereuses. C'est pour ça qu'il faut aider nos frères de France et d'ailleurs de toute la diaspora à faire le plus vite possible leur alliance.
Une dernière. Ok. Et ma question, c'est comment il faut expliquer la chita du rabbi et pourquoi, en fait, un tzadik comme lui, il peut avoir eu comme influence, une telle influence sur en rapport avec Khoutz Israël, enfin en rapport avec Roul, pardon, c'est-à-dire de faire des mitzvot, mitzvahim, etc., et pas avoir une influence basée sur Israël. Lui, c'est clairement basé sur le monde entier, quoi.
Tu sais, il y a dans la chassidoute de Rabat, de Lubavitch, il y a des recueils dans lesquels on écrit les actions de chacun des maîtres du chassidisme, des sept rabbis, de jour en jour. Lorsqu'il y a eu la déclaration d'indépendance d'Israël, c'était un vendredi après-midi, on raconte que le rabbi, pendant tout le Shabbat, était dans la perplexité et qu'il tenait en lui la paracha dans le livre de Devarim qui parle du retour d'Israël. Et il dit, est-ce que c'est ça ou est-ce que ce n'est pas ça? À la fin du Shabbat, il a dit, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une hésitation, pour le dire, et une réticence à la dimension politique. Par exemple, quand on parle de la personnalité du Mashiach dans l'enseignement de Chabad, le Mashiach est essentiellement une personne mystique, avec une influence spirituelle, et cette influence spirituelle lui permet de régner. C'est-à-dire, à nouveau, il y a ici une façon d'essayer de contourner la dimension politique. Et bon, ça explique énormément de prise de position du rabbi par rapport au sionisme, par rapport à Israël.
Avec toutes les fonctions que vous avez aujourd'hui, votre emploi du temps, est-ce que vous étudiez encore la Torah?
Est-ce que, avec toutes les fonctions que j'ai remplies, est-ce que j'étudie encore la Torah? Oui.
Voilà, dans un de vos cours sur YouTube, vous dites que Rabbi Nachman, du coup, lui, quand il est venu en Israël, il s'est intéressé, on va dire, il a dévoilé Israël d'une façon intérieure, d'une façon pnimi, quoi, pour prati. Par contre, Rav Kook lui a dévoilé la vision d'Israël d'une façon klali pour tout l'âme Israël. Pour en parler un peu plus, je n'ai pas très bien compris cette notion.
C'est certainement pas ce que j'ai dit.
Ah, ok, excusez-moi.
C'est vrai qu'il y a une différence entre la chassidoute de Breslav et Rabbi Nachman de Breslav.
Ah, d'accord.
La chassidoute de Breslav met l'accent sur l'individualité. Et c'est pour ça que c'est populaire, étant donné qu'il y a aujourd'hui un retour de l'individualisme dans tous les domaines, c'est-à-dire dans tous les secteurs de la société. Par contre, Rabbi Nachman de Breslav, quand on l'étudie très profondément, on se rend compte qu'il dit exactement la même chose que le Rav Kook, mais avec une différence. C'est qu'il est à la racine du phénomène, c'est-à-dire il prévoit ce qui va se passer, le Rav Kook est dans l'actualité du phénomène. J'ai d'ailleurs pu donner moi-même des cours sur l'Ikuté Moharan de Rabbi Nachman de Breslav au Machon Meir, et dans lesquels j'expliquais de manière très claire, c'est évident quand on lit de manière objective les textes, on voit très bien que Rabbi Nachman de Breslav est préoccupé par les mêmes problèmes que le Rav Kook. Et ce qui d'ailleurs m'a amené la critique d'un de mes élèves qui était breslaveur, qui m'a dit « Oui, mais alors à cause de toi, les gens n'iront plus à Ouman. »
Ouais, c'est sûr.
Bon, alors moi j'en ai beaucoup, vous me dites quand je m'arrête. En dehors d'Israël, il y a beaucoup de voix, d'experts en tout genre, qui prêtent à Israël une certaine radicalisation depuis 7 octobre. Est-ce que, parce qu'on va dire qu'ils ont un peu de recul pour pouvoir observer ça, est-ce que nous, on doit prêter attention à ça et s'introspecter? Parce que nous, cette radicalisation, on la prend justement pour un réveil et du courage, mais est-ce qu'on ne doit pas prêter attention? On voit qu'ils disent, ouais, mais si on voit de loin, Israël est en train de se radicaliser.
Oui, quand on parle de radicalisation, il faut bien comprendre une chose. Ça veut dire, comme tu l'as très bien dit, il s'agit toujours d'un éveil. Maintenant, on ne peut pas prendre cette critique d'Israël séparément de la critique générale de la communauté internationale, qui, de manière extrêmement caricaturale, se pose en ennemi de la victime. Et étant donné qu'il y a une culpabilité du monde occidental dans tout son ensemble, de la Shoah, jamais ce problème n'a été résolu. Et donc, c'est là que, au moment où Israël se fait attaquer, et donc il y a un relan de souvenir de la Shoah, c'est là que l'Occident essaie de se dédouaner, je parle ici au niveau de l'inconscient collectif, se dédouaner de la Shoah en essayant de prouver l'absurde que c'est Israël qui fait le génocide. Et ça fait partie de quelque chose qui relève de la psychanalyse, si ce n'est de la pathologie. Et donc, toutes les critiques d'Israël, en fait, sont focalisées autour de ce problème. On peut voir également chez des Juifs qui cherchent à se légitimer par rapport au climat général, l'adoption de positions absolument absurdes par rapport au conflit, sans vérifier quoi que ce soit. Maintenant, on peut dire qu'ils ont parfois des circonstances atténuantes, mais je pense que des intellectuels devraient être mieux informés.
Ok, mais par exemple, quand on voit ce genre de symbole, par exemple un gâteau d'anniversaire avec une corde de pendaison, est-ce que c'est pas des signes qui doivent quand même un petit peu nous alerter?
C'est tout à fait humain. Disons, on peut apprécier ou ne pas apprécier, être à dire c'est de bon goût ou de mauvais goût, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est important ici, c'est de savoir est-ce qu'Israël est capable de se défendre. Est-ce qu'Israël est capable également de vouloir la justice?
Alors, dans le même sujet, tout à l'heure, on a parlé de la vengeance au nom de la justice. Est-ce que des fois, la vengeance, elle n'est pas nécessaire aussi, simplement pour le moral du peuple? C'est-à-dire qu'après le 7 octobre,
on peut dire c'est, disons, un sentiment humain. Mais il faut savoir que la société d'Israël, aujourd'hui, est portée par un désir d'idéal. Ce n'est plus simplement une société qui cherche à se défendre, à faire ce qu'elle peut pour vivre. Non, non, c'est une société qui est à la recherche d'un discours. Et donc, il est tout à fait normal que le discours sur la vengeance soit concentré autour du problème moral, donc de la justice, et pas simplement de la libération d'énergie agressive.
Mais est-ce que ça peut être quand même légitime
Ça l'est, évidemment. Mais est-ce que c'est ça qui meut la majorité des Israéliens? Non.
D'accord, mais on a le droit d'accorder ça au peuple juif de vouloir se venger pour remonter le moral.
Essayer de voir toute personne dans le monde auquel serait arrivé un dixième de ce qui est arrivé à notre société, alors vous aurez vu un déclenchement de violence absolument incontrôlée. C'est pas du tout le cas de notre société.
Mais c'est moral.
Ça, mais vous avez déjà posé la question.
Ok. Autre sujet.
Être juif, ça veut dire être monothéiste. Or, le monothéisme implique l'unité de toutes les dimensions de l'être. C'est-à-dire se cantonner uniquement dans la dimension abstraite, c'est également une forme de dualisme. Alors, si vous parlez de monothéisme, alors vous parlez de l'unité des sentiments.
Je me permets de la refaire un peu. Il y a eu beaucoup d'histoires sur, par exemple, les vidéos qui ont été envoyées depuis Gaza, qui pouvaient être un petit peu humiliantes pour les Palestiniens, mais qu'en Israël, pendant longtemps, avant de prendre conscience du problème que c'était, on les a laissés parce qu'on a dit c'est important qu'après l'humiliation du 7 octobre, qu'on puisse un petit peu relever la tête, un petit peu faire les fiers.
Une chose, quand on a un ennemi, il faut comprendre quelle est la psychologie de cet ennemi. Or, la psychologie fondamentale de l'islam quand il est agressif, c'est l'humiliation. C'est-à-dire, si vous lisez un peu les textes coraniques, par exemple, eh bien, vous voyez tout de suite que l'intérêt de l'islam quand il fait la guerre n'est pas tellement la victoire que l'humiliation de l'autre. Et donc, si vous voulez effectivement arriver à la victoire, il faut renverser l'équation.
Et ça peut avoir un effet thérapeutique pour le peuple juif aussi.
Ça, la question a déjà été posée.
D'accord. Je change de sujet. Dans le monde d'Atilumi, on a souvent cette tendance à vouloir aborder une Torah qui soit en accord avec la période de modernité, des lumières dans laquelle on est. Et quitte à des fois, on a l'impression qu'on lisse un petit peu trop la Torah en omettant certains de ces aspects qui sont, oui, un petit peu, qui peuvent paraître, oui, entre guillemets, arriérés. C'est-à-dire qu'au final, dans la Torah, on parle, oui, de lapider des gens quand ils font des choses qui sont pas bien. Et c'est pas quelque chose qu'on met en avant aujourd'hui parce qu'on veut présenter des mitzvot qui seront faites de manière instinctive et on oublie un petit peu le côté autoritaire de la Torah.
C'est n'importe quoi.
Qu'est-ce qui est n'importe quoi?
Je que vous dites.
On n'a pas cette tendance à vouloir...
C'est-à-dire que d'abord, vous faites dire à la Torah des choses que la Torah ne dit pas. Vous faites dire au public d'Attil et Oubi des choses qu'il ne dit pas. Donc, je trouve que c'est n'importe quoi.
Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on met en avant, ce côté-là de la Torah très autoritaire.
Ah bon? J'aimerais vous poser une question. Vous connaissez cette scène, par exemple, vous avez quelqu'un qui arrive devant le grand Sanhédrin, tribunal. Le président du Sanhédrin lui dit, mais vous avez transgressé le Shabbat, monsieur? Bah, oui, bien sûr, j'ai transgressé le Shabbat. Il y avait des témoins. Et bien sûr, ils sont là. Ils vous ont prévenu que si vous transgressez le Shabbat, ils vous amènent au tribunal pour être lapidé. Mais bien sûr, ils vous l'ont dit. Et vous avez quand même transgressé le Shabbat? Oui, bien sûr. Président de tribunal, ce personnage est fou, donc il est dispensé. C'est-à-dire, la halakha est organisée de telle manière, il y a des systèmes internes dans la halakha, des processus qui font que, en fait, toutes les sanctions prévues par la Torah sont inapplicables. Et ça, aux yeux de la halakha elle-même. Alors, la question qui se pose est la suivante. Pourquoi est-ce que le judaïsme s'est fait un double dommage? D'une part, il parle de lapidation, donc il est barbare. D'autre part, il est incapable d'appliquer ses propres menaces. D'accord? Alors, il faut prendre ça au sérieux. Alors, ça veut dire que si la Torah a dit que pour la transgression du Shabbat, par exemple, il y a lapidation, ce n'est pas pour faire peur au transgresseur du Shabbat qui se dit « Tiens, je vais recevoir une pierre dans la tête. » Ce n'est pas ça dont il est question. C'est simplement pour lui signifier la gravité de la chose. C'est comme si on disait « Sache que tel acte est très grave puisqu'il est passible de lapidation. » Mais il n'est pas certain, il est certainement pas question, et ça n'arrivera jamais qu'on lapide qui que ce soit.
Est-ce que cette logique, elle est applicable dans un État moderne? C'est-à-dire qu'on va mettre des lois qui ne seront pas appliquées?
C'est-à-dire qu'il y a un grand principe dans la législation juive, c'est qu'il y a des grands principes qui disent une chose et la modalité d'application est exactement le contraire. Ça fait partie de la logique du droit hébraïque.
Dans le même sujet, je peux encore me poser la question. Dans le même sujet, est-ce que les sionistes laïcs, quand ils ont parlé d'un nouvel homme qui serait détaché des mitzvot, qui était quelque chose un petit peu un réflexe galoutique, est-ce qu'ils n'avaient pas un instinct de vérité, dans le sens où pendant 2000 ans on a fait les mitzvot un petit peu par obligation sans sens, et que en revenant en Israël on était censé retrouver notre vraie nature?
Une chose, la laïcité est née en Europe à partir de la Renaissance, avec deux phénomènes. Tout d'abord, l'abandon du latin. Le latin étant la langue de l'Église, et donc les œuvres ont commencé à être écrites dans les langues locales. Et puis, il y a eu également un refus de l'autorité du Vatican pour se concentrer autour de la dimension nationale. Alors, c'est ce qui a fait dire, disons, qu'un des inventeurs de la chidonie ou de la laïcité juive dans la modernité, je parle d'Eliezer ben Yehuda, qui a dit on n'a plus besoin des mitzvot, les mitzvot étaient nécessaires pour se maintenir pendant le temps de la galoute, mais maintenant nous allons nous définir par la langue et par la terre. C'est une imitation de la laïcité européenne. Il y a simplement une petite remarque que fait le professeur Andréner, c'est que la langue en question, c'est la langue sainte, et que la terre en question, c'est la terre sainte. C'est-à-dire que la laïcité juive porte en elle-même ses propres freins. Donc, en fait, c'est un mouvement qui, malgré lui ou à son insu, est impliqué dans la logique de la sainteté, dans l'économie de la sainteté.
Donc, il y avait, oui, un instinct de ce que je comprends, chez les sionistes laïcs, quand ils disaient de vouloir annuler les mitzvot, c'était annuler les mitzvot qui étaient faites avec la mauvaise intention.
Ce que ça veut dire, et ça se cache dans la profondeur de ce mouvement, c'est le désir de l'accomplissement des mitzvot dans leur nature véritable. Or, la manière dont les mitzvot ont été accomplis pendant le temps de l'exil, c'était extrêmement réducteur, même par rapport aux mitzvot elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous mettez les téphilines, pendant tout le temps de l'exil, nous avons mis les téphilines. Mais si on regarde dans la Torah la raison pour laquelle il faut mettre les téphilines, alors la Torah dit expressément, les nations de la terre verront que le nom de Dieu est sur toi et te craindront. C'est-à-dire une dimension militaire. Et cette dimension ne pouvait absolument pas se manifester pendant le temps d'exil. Or, c'est vrai pour toutes les mitzvot. Les mitzvot sont à comprendre à l'indice du clan. Comment je le sais? Vous avez qu'à voir dans le livre de Devarim, au chapitre 30. Quand la Torah nous parle du retour d'Israël sur sa terre, après elle dit, une fois que tu seras revenu, tu accompliras les mitzvot. Comment? La Torah suppose-t-elle que je ne faisais pas les mitzvot jusqu'à présent? Je suis censé toujours les faire. Oui, mais elles ne sont pas appliquées dans leur cadre naturel. Et le cadre naturel des mitzvot, sévère dans le Sifri, on le trouve sachet dans Rashi, dans Ramban, c'est l'état hébraïque sur sa terre.
J'écoutais un penseur français juif de gauche qui accusait le sionisme d'être antisémite par sa haine en fait du juif d'exil. Chez les penseurs sionistes, il y a un peu de vrai dedans ?
Absolument pas. Jamais on a vu une pensée juive authentique ou légitime qui aurait pour objet la haine de l'autre. La haine de l'autre, qu'il soit juif d'ailleurs ou pas juif. Ce dont il est question, c'est la critique de l'exilisme, et ça, effectivement, ça fait partie de l'idéologie sioniste. Si vous dites que le peuple d'Israël doit revenir à sa terre, ceux qui ne reviennent pas sont en infraction par rapport à cette valeur. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont, qu'à Dieu ne plaise, détestés? Depuis quand? Ce sont des juifs, non?
Une détestation de la condition exilique.
Alors, on peut être critique de la condition exilique, de la valorisation de l'exil, ça c'est tout à fait normal. De même que vous avez des penseurs de gauche qui vont vous dire qu'il ne faut pas valoriser l'État.
Okay.
J'espère bien qu'ils n'ont pas la haine de ceux qui le valorisent.
Tout à l'heure, on parlait du complotisme. Ça se situe où entre la lucidité, et la nécessité d'être lucide, et la maladie mentale que ça peut amener?
C'est toujours quelque chose, la vérité est toujours un peu au milieu, n'est-ce pas? Alors, on peut avoir des opinions complotistes, mais si c'est systématique, alors là, c'est qu'il y a un problème.
Et ça se joue à quoi, alors? Sur quoi on doit être complotiste, sur quoi on ne doit pas l'être?
Disons que il faut être positif. Or, il est beaucoup plus positif de faire avancer les choses que de soupçonner un mal caché. Même si ce mal caché existe, d'ailleurs. Mais la manière de vaincre un mal caché n'est pas de l'affronter, mais au contraire, de le surmonter en promouvant l'aspect positif de la réalité.
Le deep state, c'est du complotisme, par exemple?
Le deep state, c'est pas du complotisme, pour une raison très simple. Un complot est toujours caché. Le deep state n'est pas caché de niveau.
Ok. Merci.
Ah. Alors, cher élève.
Moi, j'ai une question. Pourquoi les personnes... moi, je prends comme exemple le parti en France, par exemple, LFI. Okay. Mais comme toutes les autres personnes dans tous les pays, comment ces personnes-là, alors qu'il y a des débats dans tous les sens, ils n'arrivent pas à comprendre, genre le Hémet, j'ai envie de dire, alors que c'est en fait à chaque fois on dirait que c'est il y a quelque chose à la fin, quand on dirait qu'ils vont comprendre, hop ils retombent, et j'arrive pas à comprendre pourquoi, alors que c'est même pas finalement c'est pas des terroristes au plus haut point, mais pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre le Hémet?
Disons comme ça, les opinions que l'on a ne sont pas toujours basées sur la rationalité. C'est-à-dire la plupart des prises de position des gens sont intuitives et sont influencées par des petits événements qui parfois ne sont pas décelables. Et c'est pour ça qu'on a besoin parfois d'un psychanalyste pour remonter aux sources dans l'enfance, par exemple le traumatisme du passage du linge au pot.
Mais il y a une raison particulière au fait qu'ils n'arrivent pas à...
Il y a une pathologie collective. Mmh. Et une pathologie collective, ça s'analyse à l'échelle de l'histoire. Par exemple, nous avons eu des cas de pathologies idéologiques au XXe siècle qui ont compris des millions de personnes parce qu'elles sont encore une tendance au moutonisme. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un troupeau, naturellement, vous allez hurler avec tout le troupeau.
Ok. Juste aucun rapport. Mais moi, j'ai une question. Comment on peut choisir entre faire, en tant que Français, faire un an et demi d'armée et donc après pouvoir potentiellement revenir à la yeshiva, etc., ou prendre un risque de faire quelque chose de plus long, et du coup...
Il n'y a pas de formule valable pour tout le monde. Ouais. Chacun, cas, dans son individualité, il faut respecter l'individualité.
Ah, mais comment on arrive à se décider, en fait?
Ah, comment est-ce qu'on arrive? C'est un mystère. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, le fait qu'on est fait pour choisir, c'est une donnée de l'être humain. Et je ne pense pas qu'il y ait une formule pour expliquer. Parce que si on doit choisir, c'est qu'on est véritablement libre.
Ouais. Moi, j'ai une question.
Ah.
Alors, dernièrement, il y a eu le décès de Rav. Est-ce qu'on doit se remettre en question par rapport à ça?
J'ai pas compris la question.
Dernièrement, il y a eu le décès de Rav. De Rabbani.
Oui, alors.
Rav Ronchaya et Rav Amos. Est-ce qu'on doit se remettre en question?
Pourquoi se remettre en question?
Bah, deux raves qui qui décède enfin très proche comme ça.
Qu'est-ce que tu es en train de se remettre en question?
Je sais pas, parce
faire teshuva.
Ouais, est-ce qu'on a un point dans le dans l'âme Israël à renforcer quelque chose?
Oui, certainement. C'est-à-dire quand il y a une disparition des tzadikim, bien on en est malheureux, ça nous amène à nous poser des on sait pas se remettre en question. Je pense que ça veut dire qu'il faut disons faire une véritable teshuva et remplir le manque.
Moi alors j'ai une question. On va dire c'est plus de manière générale, mais je vais donner un cas pour exprimer mieux. Si par exemple le gouvernement, ok, qui est un gouvernement, on va dire un gouvernement bon, ok, il fait une décision qui est mauvaise. Est-ce que c'est bien de en public montrer son mécontentement pour que le gouvernement change, ou alors ça montre justement que le peuple n'est pas uni? Par exemple, récemment, j'ai vu par exemple des Khalim qui sont vraiment été pris des vidéos d'eux et qui ont dit clairement qu'ils n'écouteront pas le gouvernement parce que ils ont fait une iska alors que tous leurs frères qui sont morts pour ça, au final ils sont morts pour rien. Et donc d'un côté, je me dis je suis d'accord avec eux parce que il faut ça pour rien, mais de l'autre côté, de faire ça, ça montre au monde que même nous, on n'est pas soudés entre nous. Donc, dans un cas comme ça, comment on devrait réagir?
C'est un mélange, une vraie salade.
Ouais.
L'autorité de l'État, elle est l'autorité du peuple souverain, surtout en démocratie, puisque nous avons élu nos représentants. Et donc, même l'opposition fait partie du système. Et le fait que l'on peut être critique d'une décision ou d'une autre, alors il faut voir quel poids ça a dans le shikulda, dans l'évaluation de l'ensemble. Si dans l'évaluation de l'ensemble, je dis le nombre, là, il y a une accumulation d'erreurs de la part de ce gouvernement qui est absolument intolérable, alors je change de gouvernement. Si je dis non, le gouvernement est humain, il a le droit de faire des erreurs, ces erreurs par rapport à ses mérites ne renversent pas la balance, dans ce cas-là, je continue à soutenir le gouvernement. Mais quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas ici de remettre en cause l'autorité légale d'un gouvernement élu de manière démocratique.
D'accord, mais si je peux me permettre, ça n'a pas vraiment répondu à ma question. Oui. Parce que, au final, ma question, c'était plus... Voilà, exactement, on montre au monde qu'on n'est pas unis. Et ça, c'est un point négatif.
Non, c'est pas du tout ça. La démocratie implique le débat. Elle implique également la remise en question parfois de la légitimité d'un gouvernement. Ça fait partie du système démocratique. Au contraire, ça montre au monde notre puissance.
D'accord.
Oui.
Regardez la Coupe du Monde de football. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est parvé, et est-ce que ça change quelque chose dans les 3 semaines ou pas dans les 3 semaines?
C'est entièrement parvé. C'est-à-dire, certains aiment le football, certains n'aiment pas le football, il y a des émotions, on peut dire d'une certaine manière, c'est une analyse qu'on fait dans les psychologues, c'est que l'engagement dans le sport, c'est pour évacuer la violence. C'est-à-dire cette violence qui aurait pu se traduire dans la guerre, dans la violence physique, finalement, un exutoire qui est l'engouement pour le football, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Ça peut être positif même pour certaines personnes. Alors.
Pour certaines personnes, évidemment, ça peut être
positif. Et pendant les 3 semaines, aucun problème? Parce que c'est un peu festif, quoi. Il y a des matchs un peu festifs.
Que faire? C'est pas nous qui décidons de la date.
Non, mais est-ce qu'un juif peut participer à regarder un match festif? Il y a comme ça des endroits où il y a 200 personnes qui regardent des matchs et ils sont très contents.
Eh ben, il faut qu'ils demandent à leur rave.
Ils demanderont. Rave, est-ce qu'il y a une manière d'étudier propre aux séfarades? Si oui, quelle est-elle et est-ce qu'elle est présente dans les yeshivot aujourd'hui?
Oui, il y a une manière propre aux séfarades dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire, il y a une tendance à la classification. C'est ce qu'on appelle en hébreu « machloket sugiot ». C'est-à-dire qu'il y a, quand il y a une contradiction dans le Talmud, par exemple, alors vous cherchez à savoir quelle est l'opinion qui est la dominante dans les sugiot et vous repoussez l'autre. Tandis que dans l'étude Ashkenaz, ça remonte au Balai Tosfot, il y a ce qu'on appelle Ukimta, c'est-à-dire la réconciliation entre deux sources contradictoires, ce qui donne des résultats tout à fait différents. Alors, évidemment, il y aura également des intuitions un peu différentes chez chaque maître. On ne peut pas réduire les séfarades à un grand ensemble ou les Ashkenaz à un grand ensemble. Mais de certaines manières, il y a, je reprends ici un enseignement du Chida, le Rav Chaim Yosef David Azoulay, au XVIIIe siècle, qui disait que c'est une séparation entre la tendance au Chesed et Odin. c'est-à-dire à la bienveillance et par contre à la rigueur. Alors, il y a un peu de ça.
Donc, les séfarades sont plus dignes, alors, à classifier?
Non, pas du tout, au contraire. Chez les séfarades, il y aura plus une tendance à la coula, justement, à la facilité, tandis que dans l'intuition ashkénaze, on va chercher plutôt la chumra. La chumra, c'est-à-dire de tenir compte de toutes les opinions possibles.
Et est-ce qu'aujourd'hui, elle est présente, cette manière, dans les yeshivot ou pas?
Elle est assez absente, dans les yeshivot, cette manière d'étudier, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'elle s'est éteinte. Elle est en veilleuse.
Il faudrait œuvrer pour.
Vous avez qu'à la fonder, votre yeshiva.
Non, moi je suis ashkenaz. A-t-on le droit, Rav, selon la halakha, d'haïr un frère juif qui nous a fait du mal?
Non.
Comment on fait pour ne pas le haïr?
On l'aime. Okay. C'est la halakha. Si la Torah dit tu aimeras ton prochain, ça veut dire que tu es capable d'orienter tes sentiments. Contrairement à la fameuse phrase qu'on trouve dans la littérature romantique française, c'est plus fort que moi. Mmh. Ça n'existe pas dans la halakha.
Et vous avez des astuces à nous donner pour réussir à aimer chaque juif?
Il y a dans la Guémara, on raconte qu'il y avait deux maîtres qui marchaient ensemble et ils ont vu une charogne. Alors l'un a dit qu'elle sent mauvais. Et l'autre a dit vois comme ses dents sont blanches. Il faut toujours chercher donc l'élément qui peut permettre d'avoir un regard de bienveillance sur la chose.
Très bien. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé qu'on vous pose?
Non.
Alors je rebondis. Vous avez réponse à toutes les questions, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Non. Vous n'avez pas de réponse à toutes les questions, pardon. Mais est-ce que il y a des réponses qui changent avec le temps? Et oui, si oui, sur quoi?
Quand on a des données nouvelles, alors on change d'opinion, c'est normal. Si on n'est pas capable de tenir compte d'une nouvelle donnée, alors c'est qu'on est figé, c'est plus une pensée.
Vous auriez un exemple d'un sujet sur lequel vous auriez changé votre réponse aujourd'hui?
Oui, par exemple, je considère aujourd'hui qu'il est nécessaire d'encourager plus la conversion, d'être avoir de plus de facilité. Je ne dis pas de changer la halakha, attention. Mais je veux dire qu'il doit y avoir une certaine ouverture de sympathie envers les candidats. Et ça, c'est pour des raisons de données nationales, de démographie, par exemple.
On disait pourtant que ça pouvait être le contraire, que comme Israël devient un pays développé, on pourrait moins permettre la conversion, justement.
Quel est le rapport entre la conversion et le développement?
Parce que ça devient trop stylé d'être juif, peut-être, aujourd'hui.
Non, mais il ne s'agit pas de remettre en question la halakha. Oui, mais il ne s'agit pas de changer la halakha. Il s'agit simplement de permettre à ceux qui en sont dignes d'avoir plus de facilité dans l'accès à la conversion. Ça ne veut pas dire qu'il faut, je reviens là-dessus, c'est peut-être bête, mais il ne faut pas changer les conditions de la halakha. Mmh. Simplement, quand vous dites à quelqu'un, vous voulez vous convertir, ça va vous prendre 4 ans, est-ce que c'est écrit dans Shulchan Aruch? Non.
Et ceux qui sont appelés à Israël avec un ascendant juif, est-ce qu'eux doivent être au contraire encouragés, vraiment?
Bon, ça c'est un débat qui, à mon avis, est tout à fait secondaire. Parce que ce dont il est question aujourd'hui, c'est de contrer l'assimilation. Et ce genre de problème personnel, ça se règle au niveau personnel.
L'autre jour, je me baladais dans les rues de Jérusalem lorsque je tomba sur une manifestation pour la libération d'Yigal Amir, donc l'assassin de Yitzhak Rabin, et en confrontant les personnes qui étaient présentes, ils ont fini par m'avouer que oui, ils soutenaient concrètement l'assassinat d'Yitzhak Rabin parce qu'ils mettaient en danger la sécurité d'Israël. Qu'est-ce que vous pensez de la violence politique? Est-ce que des fois, elle peut être légitimée? Dans un sens ou dans l'autre?
Non.
Jamais?
Disons, l'assassinat politique, c'est une pratique qui est connue malheureusement depuis des siècles. Est-ce qu'elle est défendable? À mon avis, non.
D'accord. Même si quelqu'un mettait vraiment concrètement...
La question a déjà été posée.
D'accord. Très bien. Pas de problème. Ça sert à quelque chose de lire des télim pour aller refroidir quelqu'un, par exemple?
Il est très bien d'étudier la Torah et de faire la prière pour la refroidir de quelqu'un, pour la guérison de quelqu'un. Or, c'est exactement ce que les deux fonctions sont remplies. Rempli par la lecture de Tehillim.
C'est une étude.
C'est une étude, ça fait partie du Tanakh.
Et moi,
oui, mais on comprend.
Mais est-ce que la tendance, est-ce qu'il peut y avoir un problème dans la
si
tendance?
On ne comprend pas, c'est pas non plus une prière.
Donc il peut y avoir un problème dans la tendance à vouloir juste finir des livres de Télim en pensant que ça remplit des chassanets dans le ciel, quoi.
Est-ce qu'il y a que ça? Évidemment pas. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez besoin de manger, vous n'avez pas de pain, alors vous faites la prière pour avoir du pain, vous allez également le chercher à la boulangerie, je crois.
D'où viennent les tendances à l'infantilisation, souvent à travers un culte de personnalité chez certains courants du judaïsme, et est-ce que ça a à combattre ou pas?
Ça fait partie, si vous voulez, du paganisme naturel, et donc il n'y a pas de quoi s'étonner. Le problème, c'est quand ça devient la norme, et que c'est ça qui légitime votre appartenance sérieuse ou pas sérieuse au judaïsme, ça n'a absolument rien à voir. Mais le fait qu'il y ait des phénomènes, disons, d'infantilisme, de superstition, c'est tout à fait normal, c'est humain.
Est-ce que il faut les combattre quitte à casser la base sur laquelle s'est construit la mouna de la personne?
Bon, alors vous faites allusion à des événements très pratiques auxquels je crois que vous avez été, dans lesquels vous avez été impliqué, et ça n'intéresse pas.
Quelqu'un a une question? C'est tout pour moi.
Ah bon?
On finit dans 5 minutes, si je voulais. On finit dans
5
minutes, si vous voulez
dire quelque chose. Comment doit-on étudier le Tanor? Parce que quand on lit le Pshat et quand on lit la Gemara, ça peut parfois se contredire. Mm-hmm. Je prends par exemple l'exemple de Shaoul, auquel on voit que il fait plusieurs erreurs et que, enfin, par exemple, avoir tué la ville des Kohanim, avoir laissé en vie le roi Amalek et avoir essayé de tuer David, ou même encore d'avoir sacrifié sans l'accord de Shmuel, juste avant Shmuel. Et que la Gemara nous dit, enfin que Chazal nous dit, il a fauté qu'une seule fois.
Tout d'abord, pour étudier le Tanakh, c'est très important d'étudier le Tanakh. Il faut l'étudier de manière superficielle. La tentation, c'est de dire, pour étudier le Tanakh, il faut approfondir. Alors finalement, on n'étudie pas. Alors, il faut avoir une connaissance d'ensemble du Tanakh. Ça ne veut pas dire qu'il faut lire n'importe comment. Il faut avoir une compréhension minimale des versets. Une fois qu'on a parcouru le Tanakh, c'est le moment d'approfondir. Le fait que la Gemara a un certain but éducatif, c'est tout à fait normal. La Gemara dit effectivement que Shaoul n'a péché que deux fois, non, que une fois qui lui a coûté sa royauté, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, la Gemara connaît le texte du Tanakh, elle n'invente pas n'importe quoi. Elle suppose que tu lui fais confiance, qu'elle a lu le texte elle aussi. Et donc, ça veut dire que pour une faute, Shaoul a été disqualifié d'être roi, tandis que pour deux fautes qui auraient valu à David de mériter de perdre sa souveraineté, il a quand même été sauvé.
Est-ce que selon vous, ça sert à quelque chose de répondre aux accusations de génocide qu'on entend sur Israël?
Oui.
Pourquoi?
Parce que c'est une accusation mensongère qui a fait beaucoup de mal.
On voit que ceux qui accusent, ils veulent pas vraiment entendre raison.
Oui, c'est ceux qui accusent ne veulent pas entendre raison. Mais il y a tout autour d'eux, il y a toute une sphère environnante, toute une périphérie qui, elle, peut être influencée et qui a besoin d'arguments.
Très bien. Alors, dernière question, comment est-ce qu'on règle, selon vous, le conflit israélo-palestinien?
Ah, ben, c'est très simple, avec l'annexion de la Judée et de la Samarie.
C'est tout, ça suffira?
Bien sûr. À partir du moment où le peuple d'Israël a cette volonté affirmée de concrétiser son droit, son devoir envers sa terre, alors ça va entraîner toute une chaîne de réactions qui vont trouver un compromis. Et ce compromis ne sera pas un compromis sur l'autorité sur la souveraineté nationale, mais ça deviendra un problème de comment régler le statut de telle ou telle population de la manière la plus humaine possible. Mais tant que nous ne sommes pas capables d'annexer la Judée et la Samarie, nous entretenons le problème.
Et la bande de Gaza.
Évidemment.
Si je ne me trompe pas, avant justement qu'on donne cette Judée et Samarie, elle était à nous, du coup. Et on la restaure encore?
Non. Non, la guerre, je rappelle, l'OLP, l'Organisation terroriste centrale palestinienne, a été fondée en 1964. C'est-à-dire 3 ans avant la guerre des six jours, avant que nous n'ayons l'emprise sur la Judée, la Samarie et Gaza. Donc, c'est-à-dire que ce projet ne concernait pas la Judée et la Samarie. Il concernait l'existence même de l'État d'Israël, qui n'était pas considéré comme légitime. D'ailleurs, c'est encore le cas dans la majorité des mouvements islamiques. Mais le fait que nous ayons eu la victoire a renversé le schéma des relations entre Israël et le monde arabe. Et tant qu'il y a hésitation par rapport à la souveraineté sur notre terre, nous ne faisons qu'alimenter le problème.
Toda rabah.
Pas cachez-vous.
Merci.